Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Et les vraies voix sont en mode Serge Gainsbourg aujourd'hui, puisqu'il y a 30 ans que Gainsbourg a tiré sa révérence. Et les vraies voix ont toutes quelque chose de chanson de Serge Gainsbourg. Pascal est la Brigitte Bardot de Philippe Bilger et ses initiales ne sont pas BB, mais PB. Cette chanson de Serge Gainsbourg est donc faite pour eux. Ça vous arrive, Philippe Bilger, de lui chanter PB Nichols PB?
Non, mais j'aime les deux, Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot.
Et Pascal aussi?
Oui, je suppose. Oui, mais ça va de soi. Mais, mon cher Philippe, vous allez commencer par me saturer avec votre amabilité. Vous me parlez de mon épouse chaque soir.
Ah bah parce qu'elle est présente par votre biais.
Elle oui, est née... mais d'accord.
Elle est née sous les tropiques. C'est pourquoi cette chanson de Serge Gainsbourg va particulièrement bien à Stella Kamga.
Un peu précis sous le tropique du Capricorne ou du Cancer. Depuis, j'ai oublié lequel. Sous le soleil exactement.
Ça vous va, Stella ?
C'est parfait.
Serge Gainsbourg. Enfin, comme il a été député et qu'il a donc représenté la France, cette chanson s'impose pour Michel Pouzol.
Allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé.
Alors, salut les bébés, ça vous va, ces présentations ?
C'est parfait.
Ah, mais
comme toujours, beaucoup d'imagination.
À la fois républicain et rebelle, tout va bien.
Ah oui, républicain et rebelle, ça vous va ? Allez, Cyprien Pézeri, le roi de l'info et au clin d'œil, et aux réseaux sociaux, Jamel, l'incontournable Jamel à la réalisation, et Zacharias au standard, le menu des VV de ce mardi 2 mars. Et j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à mon neveu Cédric, qui passe des moments un peu difficiles en ce moment. À 17h30, dégradation de la statue de Jacques Chaban-Delmas, les féministes vont-elles trop loin ? À 17h40, le second débat, réforme de l'assurance chômage, les demandeurs d'emploi sont-ils abandonnés par le gouvernement ? Et enfin, le grand débat à 18h30, Anne Hidalgo est-elle une candidate crédible pour la gauche en 2022 ? Vous connaissez le principe pour réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. Ça va bien les vraies voix ?
C'est parfait.
Très très bien mon cher Philippe.
Eh bien ça vous dit un petit tour de table de l'actualité ?
C'est parti.
Eh bien c'est parti, c'est bien, c'est Stella qui lance.
Buenas tardes amigos.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table.
Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea ?
Non taisez-vous parce que là ça...
Le tour de table
de l'actualité.
Le Star Spangled Banner pour Stella Kamga qui veut nous parler du retour des États-Unis en Afrique avec Biden.
Oui, alors il a effectivement nommé à ce poste la diplomate Linda Thomas-Greenfield. Et apparemment, elle avait sonné l'alarme par rapport à la présence de la mainmise chinoise en Afrique. Et elle a dit, je cite, « J'ai une longue expérience à propos de l'influence nuisible de la Chine et de leur stratégie d'endetter et piéger l'Afrique et ailleurs. Et la Chine serait un adversaire stratégique qui pose des défis à notre sécurité, prospérité et à nos valeurs. » Ça, c'est les propos de la diplomate en Afrique. Ce que je constate, malheureusement, c'est qu'il y a une forme de nouvelle colonisation complètement différente, bien évidemment, de celle qu'on a connue à l'époque, mais une forme de nouvelle colonisation en Afrique de la part de la Chine. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Et,
États-Unis aussi. Hein.
Oui, et ce pays-là, du coup, la Chine détient approximativement près de 70% de la dette africaine. Donc, c'est énorme. Et malheureusement, on a l'impression que le sentiment le sentiment anti-France développé par ces pays-là, notamment les États-Unis, la Chine... Et les États-Unis, la Chine et la Turquie est beaucoup plus présent que, et fait beaucoup plus de mal apparemment aux Africains que la présence chinoise en Afrique. Donc moi, je suis, ça m'a un tout petit peu interloqué parce que je sais que d'ici 2050 approximativement, les Africains se plaindront du fait que voilà, les Chinois sont arrivés sur place et n'ont pas respecté les protocoles en place, notamment d'employer les Africains à des emplois et n'ont pas respecté les normes pour les infrastructures, parce que malheureusement les infrastructures qu'ils mettent en place en Afrique sont des infrastructures de mauvaise qualité et sont de courte durée.
Par contre, vous me coupez si je dis une bêtise, mais ils rachètent beaucoup de terres arables
énormément et ils exportent en réalité leur main d'œuvre de la Chine pour l'Afrique, peu importe le pays où ils sont installés.
Qu'est-ce que vous en pensez après la France-Afrique, la Chine-Afrique et maintenant l'Amérique-Afrique ou l'US-Afrique, je ne sais pas comment dire.
On a bien compris depuis très longtemps que l'Afrique était stratégique, malheureusement, non pas pour ses populations et pour leur bien-être, mais pour les matières premières que possèdent les richesses de ce continent. La nature ayant horreur du vide, la France-Afrique ayant perdu, je dirais, de sa force. Les Chinois sont très agressifs sur ce type de politique. Mais vous parliez du foncier qu'ils rachètent. Ils rachètent aussi énormément de foncier en France.
Oui.
Ils rachètent aussi
des châteaux de vin, notamment.
Des forêts. Les Chinois s'intéressent énormément aux forêts. Il faudra un jour se poser cette question-là. Compensation carbone telle qu'elle est pratiquée au niveau international. Voilà, donc qu'il y ait une bataille économique forte en Chine, en Afrique, entre Chinois et Américains, et ce que devraient être les Européens. C'est-à-dire les Européens devraient être un peu plus concertés sur ce problème-là. Mais on voit bien que l'Europe n'a pas compris l'intérêt de soutenir l'Afrique, de l'aider à se développer, de l'aider à rentrer pleinement dans le 21e siècle, pour peu qu'elle ne soit pas.
Excusez-moi, mais
l'Afrique a beaucoup d'avantages.
Pour la France ou le Royaume-Uni, l'Afrique, ça veut dire quelque chose. Pour un Finlandais ou un Suédois, ça veut rien dire du tout.
Oui, malheureusement.
Oui, mais pour un Chinois, vous croyez que ça veut dire beaucoup de choses. Certains, je ne suis pas certain, ça ne leur pose pas tant de questions que ça.
Quand on voit
l'incapacité de l'Europe à construire une défense commune en Afrique, notamment au Sahel, et laisser la France se dépatouiller avec ce qui se passe, et Daesh, en gros, on comprend que l'incapacité de l'Europe, elle sert à la Chine, elle sert aux États-Unis, et effectivement, je pense à un des continents où la bataille économique va faire rage dans les années qui viennent, la bataille d'influence. Malheureusement, ce ne sera, j'en ai pas l'impression, ça sera toujours au détriment, encore une fois, des peuples africains. Et c'est ça qui est intolérable et le plus scandaleux, finalement. Parce que qu'on veuille donner les moyens à l'Afrique de se développer, de créer de la richesse, de sortir quelques zones encore qui sont dans la très grande pauvreté, tant mieux. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le chemin que veuillent prendre ni la Chine ni les États-Unis.
Philippe Bilger.
Alors, moi, évidemment, j'approuve totalement Stella sur l'Afrique et l'influence dominante de la Chine, d'autant plus que je ne vous cacherai pas que je ne suis pas un spécialiste de tout cela. J'ai bien conscience que la Chine devient dominante partout et je suis navré de porter atteinte à la crédibilité socialiste de Michel Pouzol en lui disant que je l'approuve totalement. Donc je regrette de le mettre en péril.
Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas encore en péril. Merci Philippe.
La Chine s'intéresse à beaucoup de choses. Malheureusement, elle ne s'intéresse pas du tout aux droits de l'homme.
En effet, c'est bien ça. Et malheureusement, effectivement, ce qu'on retient de cet article, c'est que, encore une fois, les Africains sont toujours considérés comme les éternels assistés. Des éternels assistés, les éternelles personnes qu'il faut toujours aider. Et c'est pour ça que c'est une façon pour moi, en fait, de toujours faire passer ce message-là, qu'il ne faudrait pas toujours s'attendre à ce que ce soit la France, l'Europe, l'Occident, les États-Unis ou la Chine, peu importe, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une quelconque manne qui tombe du ciel, en réalité. Il faut se construire par soi-même. Il faut se débrouiller et se décarcasser, c'est vraiment l'expression, pour s'accomplir et s'affirmer par soi-même. Sinon, on sera toujours les éternels assistés. Et les gens qui pensent qu'on recevra de l'aide pour nos beaux yeux sans rien attendre en retour, c'est vraiment des gens qui n'ont rien compris au nouveau monde d'aujourd'hui.
Je voudrais vous poser une question, vous qui êtes né en Afrique et qui avez vécu. D'après ce qu'on m'a dit, ce que j'ai lu, et a priori c'est pas une fake news comme on dit aujourd'hui, une des premières choses il y a une vingtaine d'années pour la Chine pour s'implanter en Afrique, ça a été de faire la chaîne de télé chinoise CCTV en français pour toute l'Afrique francophone pour essayer de pénétrer culturellement dans une langue qui n'est pas la leur, les pays africains.
C'est tout à fait vrai, ce n'est pas une fake news et je te rajouterai même, Philippe, que dans tous les pays où les Chinois se sont implantés, ils ont créé ce qu'on appelle Chinatown. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans votre pays, ils installent leur commerce, leurs centres commerciaux et ils n'embauchent pas les locaux en réalité. Ils viennent avec leur main-d'œuvre et ce qui a véritablement fait l'objet d'un scandale en Afrique, c'est que la main-d'œuvre par exemple qui était arrivée au Cameroun, c'était des ex-prisonniers. C'est-à-dire qu'ils ont pris les prisonniers chez eux et ces prisonniers-là sont venus travailler au Cameroun pour purger leur peine. C'est-à-dire, vous imaginez qu'on fasse rentrer chez vous des criminels pour purger leur peine qui dit criminel 10 personnes susceptibles d'agresser, de violer, de commettre un crime. Donc, ils ont fait venir des criminels de chez eux pour travailler chez nous. C'est pour vous dire à quel point moi, ça fait 10 ans, en fait, que je tire l'alarme et que j'arrête pas de dire à mes compatriotes qu'à un moment donné, il faudrait que vous rassuriez que c'est pas véritablement la France et tout ce que vous voulez sur le plan historique qui est notre ennemi. C'est notre ennemi, il est là sous notre nez et on a l'air de ne pas faire attention.
C'est les méthodes qu'utilisait la Grande-Bretagne en Australie pour peupler l'Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est les méthodes après la Commune de Paris qu'ont utilisé les Français pour aller coloniser l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. On a envoyé les gens, on leur demandait si c'était le choix, la prison ou l'exil. Ça a été une tradition comme ça historique désastreuse. Mais surtout, les Chinois ont besoin de nouveaux marchés pour développer leur activité en permanence. Ils font le pari de l'Afrique contre l'Afrique.
Et surtout, ils ont besoin de sécuriser leurs apprends en matière première. Oui. Philippe Bilger voulait dire quelque chose.
Non, je voulais... Moi, je ne détesterais pas qu'on fasse partir certains criminels de France. Ça ne me gênerait pas trop et qu'on les mette ailleurs, hein, franchement.
Bah écoutez, je ne sais pas. Peut-être voulez-vous rouvrir Cayenne. Je n'en sais rien, Philippe Bilger.
Non, d'autant plus que j'ai un ascendant très éloigné. Je rejoins ce qu'a dit Michel, qui a été un des républicains qui avait été exilé en Algérie et il a constitué un ferment de révolte là-bas. Donc vous voyez que j'ai des ascendances qui pourraient vous étonner, Michel.
Tout s'explique.
Je suis très étonné, mais à moitié seulement.
Ouais, alors, sous la Commune, ça parle d'un temps que les moins de 150 ans ne peuvent pas connaître. Hein, donc malheureusement, il n'y a plus personne qui ait connu ça.
L'histoire éclaire souvent notre présent.
Oui, les vraies voix, il est 17h15 avec Philippe Bilger, Stella Kamga et Michel Pouzol. Vous êtes bien sur Sud Radio, on se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Vous reconnaissez ? C'était en anglais, mais c'était le générique du feuilleton Le Club des Cinq.
Ouais.
Puisque Philippe Bilger veut nous parler du Club des Cinq. Ça a été votre lecture, je parie, la Bibliothèque Rose à l'époque.
Non, mais j'ai appris ça ce matin et j'ai eu envie de quitter un peu la politique, même si d'une certaine manière on la retrouve. Vous savez ce qui s'était passé pour le Club des Cinq aux États-Unis, en Angleterre, on avait décidé de mettre ce club mythique au goût du jour, c'est-à-dire de supprimer par exemple le passé simple, de remplacer le « nous » par le « on », de faire un certain nombre de modifications absurdes pour prétendument mettre ce livre au goût du jour. Et il y a eu un tel désastre commercial en Grande-Bretagne que, alors que la France avait d'abord accepté le mimétisme avec la Grande-Bretagne, et puis ça a été un tel fiasco financier et commercial, les Français se détournaient tellement de ce livre que finalement on est revenu au bon sens, on a remis le nous, on a utilisé à nouveau le passé simple, donc on est revenu à une conception saine de la littérature, du passé, et au fond, ça montre fondamentalement qu'il n'y a pas à désespérer. Dans les grandes comme dans les petites choses, eh bien, le peuple, les citoyens sont tout à fait lucides et prêts à revenir au bon sens. Ça m'a donné beaucoup de l'espoir politique et intellectuel.
Michel Pouzol, c'est vrai que réécrire les œuvres de manière à les simplifier, c'est quand même un peu délirant, parce qu'on n'est pas plus débile que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents.
Non, mais je crois que d'abord, réécrire les œuvres, on parle du Club des Cinq, hein, on parle pas de Balzac, de Proust,
ou de... Non, mais déjà, supprimer le passé simple, etc.
Non, je veux dire, faut remettre, et faut se remettre dans la mentalité anglo-saxonne, qui fait que, pour la culture anglo-saxonne, c'est des produits de commerce. C'est des produits de grande consommation, comme les comics. Maintenant, tout le monde parle des... Moi, j'ai grandi avec les comics Marvel. C'était à l'époque les studios jetaient les planches des grands auteurs qui aujourd'hui se vendent dans les salles des ventes. Donc c'est un côté que nous on a un peu du mal à appréhender. C'est-à-dire que c'est un produit comme un autre. Bon, ben on va le moderniser pour le rebooster et essayer de le revendre. Et si on peut en faire une série télé, ben on va en faire une série télé. Et un film, c'est encore mieux, ça va revendre des bouquins. On est dans une logique totalement commerciale. Après, honnêtement, j'avais trouvé moi cette idée de réécrire et de moderniser le Club des Cinq. Personnellement, j'avais trouvé ça totalement ridicule. Effectivement, je ne suis pas pour qu'on touche aux livres une fois qu'ils ont été écrits, ça c'est assez idiot. Soit la mode du Club des Cinq est passée et les jeunes veulent lire autre chose, et la littérature aujourd'hui de jeunesse est particulièrement riche. Moi je suis par exemple étonné que quand on se plaint que les jeunes ne lisent plus, on ait maintenant des rayons entiers dans les librairies de littérature spécialement destinée aux adolescents, avec plus ou moins de qualité, mais parfois de la très grande qualité, et donc on revient, des enfants reviennent à lire. Donc il n'y a pas besoin de les prendre pour des débiles profonds en l'écrivant en langage parlé pour qu'ils lisent le Club des Cinq. C'est ça la réalité. Mais après, tout ça, c'est quand même que du business, quoi.
Stella Calga.
Ah non, Michel, non. C'est de l'idéologie derrière.
Pour le Club des Cinq, honnêtement, pour d'autres sujets, là, on pourrait en parler, je pense. Pour le Club des Cinq, malheureusement, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment que du business. Mais bon.
Mais c'est pas... Non,
c'était la Kamga.
Je rejoins un peu Michel sur le coup, parce que effectivement la culture anglo-saxonne est assez différente de la culture francophone, notamment sur les sujets de la littérature. Et curieusement, je dois même avouer que ça me choque également, parce que la littérature anglophone, je l'ai un peu étudiée à l'école, et c'était une littérature qui était également prisée. Les livres, par exemple, comme Othello, qui était écrit en modern English, en old English, et il y avait des traductions qui partait du Old English, Middle English et Modern English. On voyait en tout cas l'évolution de la langue. On sentait effectivement que le livre ne s'arrêtait pas qu'à l'écrit. Il y avait comme une espèce d'héritage qui se transmettait au fur et à mesure. C'est pareil pour le livre de Molière, il y a deux semaines d'ici, qui faisait également la une, qui était également à la une, où on disait que pour il fallait soi-disant simplifier le langage. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, simplifier le langage, c'est comme si on estimait qu'on est assez bête pour ne pas essayer même de comprendre en réalité comment, à un moment donné, tel écrivain a écrit tel bouquin à telle époque. Je pense que simplifier le langage, pour moi, reviendrait à supprimer l'essence même de l'époque à laquelle le livre a été écrit. Donc, c'est pas intéressant, c'est pas utile de réécrire ou de reformuler justement à chaque fois pour soi-disant adapter le livre. C'est soit le livre est dépassé et donc ceux qui ont aimé le livre pourront venir le relire plus tard, soit, il faut simplement réécrire le livre adapté à l'époque dans laquelle nous vivons.
Après, Philippe et moi, nous avons vécu à une époque où on a tous connu la sélection du Reader Digest. Et la sélection du Reader Digest, c'était de prendre des livres, les couper en morceaux, en faire une espèce de nouvelle et les mettre dans un espèce de recueil. Et ça marchait très bien. C'était une des manières de consommer de la littérature, entre guillemets littérature, dans la culture anglo-saxonne. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup plus de respect, je crois, pour le texte et le livre. Et je pense que si quelqu'un s'amusait à réécrire les je vais penser à la comtesse de Ségur, par exemple. Je crois qu'on aurait un tollé et ça serait justifié.
Philippe Bilger.
Non, mais je suis d'accord, sauf que je ne crois pas que derrière tout cela, et je parle même de la venue en France, le fait qu'on soit revenu aux données fondamentales du Club des Cinq, comme on a pu le faire pour d'autres livres, je crois que ça révèle tout de même une propension moderne à défigurer les œuvres pour les mettre d'une manière discutable au goût du jour, de paraître s'adapter à ce qu'on prête à l'esprit d'aujourd'hui, alors qu'au fond, c'est le mépriser. Parce que c'est d'une certaine manière mépriser les générations qui lisent que de leur préparer un livre selon les critères qu'on estime les plus valables pour eux. Alors que la grande œuvre, Club des Cinq ou autre chose, Shakespeare ou Marcel Proust, ça doit rester stable, fixe, précisément parce que c'est éternel.
Là, j'avoue que Philippe, vous venez de me bluffer de, en mettant sur le même rayonnage, le Club des Cinq et Shakespeare. Donc là, je vais y réfléchir tout le restant de la semaine, Philippe.
Mais Michel, je me rappelle une controverse très agréable que j'avais eue avec Jean Birnbaum sur Le Monde. Il me reprochait d'aimer à la fois Françoise Bourdin durant les vacances et d'être un fanatique absolu de Marcel Proust. Je lui ai dit qu'on avait le droit de tenir les deux bouts d'une chaîne. Et d'avoir deux mamelles au feu.
Cela ne regarde que vous.
Vous êtes le Shakespeare des vraies voix, mon cher Philippe Bilger. Ça vous va ?
Comme j'aimerais, Philippe.
Oh, mais vous l'êtes déjà. Les vraies voix, 17h26, dans quelques instants, notre premier débat. Dégradation de la statue de Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux. Les féministes sont-elles trop loin ? Pour le moment, vous êtes 93% à dire oui. Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Stella Kamga et Michel Pouzol. Place Pays-Berland à Bordeaux, la statue de Jacques Chaban-Delmas, ancien maire de la ville, premier ministre et compagnon de la Libération, a été travesti en femme en étant affublé d'une robe violette et de boucles d'oreilles, ses ongles portant du vernis violet. Un drapeau LGBT a été mis dans sa main et de la peinture rouge sous son corps pour symboliser des règles. L'action a été revendiquée par des militantes féministes. Il s'agissait, je cite, « d'une œuvre mettant fin à une série d'actions de désobéissance civile non violente signée appelant à une mobilisation massive le lundi suivant pour la journée de lutte pour les droits des femmes et de l'égalité des genres. Nous sommes des agitatrices, des lanceuses d'alerte, des Banksy du militantisme, des délinquantes, même si vous voulez, revendiquent ces militantes .e.s, parce que le communiqué est en écriture inclusive, issue.e.s, de différents collectifs comme Extinction Rebellion Bordeaux, ANV COP 21 Gironde ou Collège Féministe Bordeaux. D'où le premier débat, dégradation de la statue de Jacques Chaban-Delmas. Les féministes vont-elles trop loin ? Et pour le moment, vous êtes 93% à dire oui. Philippe Bilger, est-ce que les féministes qui ont ce type de comportement ne sont pas la meilleure manière de décrédibiliser les combats féministes ?
Mais totalement, mon cher Philippe. D'abord, vont-elles trop loin ? Où vont-elles d'abord ? Je veux dire, ou alors elles vont dans la démesure, l'outrance, l'absurdité, le militantisme aberrant, et vous avez raison, elles décrédibilisent tout ce qu'il y a de beau dans la cause féminine lorsqu'elle est exercée avec intelligence et le souci véritable de l'égalité. Mais derrière tout ça, on pourrait trouver ça parfaitement grotesque et tourner cela en dérision en disant c'est une sorte de pochade ridicule, mais ça va plus loin, c'est une volonté absolument de détruire non pas forcément les grands hommes ni les belles personnalités, mais d'apposer une idéologie, j'y rejoins, une modernité délétère d'aujourd'hui sur tout ce qui a été le passé, illustre ou non, sur les réputations d'hier. Je trouve que c'est un monde qui cherche à imposer sa loi au nôtre, et ça devient très dangereux, et le féminisme, je suis persuadé, et vous avez raison, en sort perdant.
Stella Kamga, vous qui êtes une femme, quand vous voyez les féministes, certaines féministes, hein, pas toutes évidemment, se comporter comme ça, qu'est-ce que vous pensez ?
Alors,
Vous dites arrêtez les filles, vous nous portez préjudice ?
Moi, je dirais même pas arrêter les filles, je dirais arrêter tout simplement. Les nouvelles féministes aujourd'hui, pour moi, je trouve dommage que ce ne sont pas les Marie Curie, ce ne sont pas des George Sand, ce ne sont pas des Simone Veil, c'est-à-dire des femmes qui ont véritablement porté le combat des femmes et qui, en face d'un problème, ont contourné le problème ou ont trouvé la solution. Pour moi, ces femmes-là représentent en tout cas les véritables figures emblématiques du féminisme. Sauf qu'aujourd'hui, les néo-féministes, comme je les appelle, les néo-terroristes, sont des femmes, malheureusement, qui se limite à promouvoir l'écriture inclusive, à statuer en gros je suis victime, je suis une femme, je suis une victime sur la poitrine, ou simplement il faut déclarer la guerre aux hommes parce que c'est les hommes qui sont la cause de nos problèmes. Je ne conçois pas, moi, cette façon de percevoir ou d'endiguer le combat féministe, sachant bien évidemment que il reste encore des véritables combats qu'une femme en tant que des féministes peuvent s'approprier et continuer de défendre notamment l'excision dans les sociétés, le phénomène de l'infanticide et bien d'autres débats, la scolarisation de la jeune fille, l'éducation de la jeune fille. Là, dans ces domaines-là, je ne les vois pas. On les voit juste malheureusement en train de taguer des statues et de dire qu'elles sont des agitatrices et qu'elles défendent soi-disant le combat des genres. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en réalité en matière de combat féministe dans cette société? Je crois sincèrement que combat de genre, écriture inclusive, ça devrait être le dernier de nos problèmes, si ce n'est même ne pas exister tout simplement.
Michel Pouzol.
Oui, moi je serais plus modéré. Alors je voudrais d'abord rappeler que le combat féministe a des raisons d'exister encore aujourd'hui et que la lutte pour l'égalité est loin d'être acquise. Je dirais même que sur certains sujets, elle recule. Les femmes sont toujours payées 25% de moins que les hommes à compétences et travail égal. Elles sont encore rarissimes dans les entreprises du CAC 40. Je crois même qu'il n'y en a plus. Il y en avait une, Madame Omerjon, elle a été écartée, il n'y en a pas. On a encore des difficultés. Enfin, moi, j'ai une fille de 26 ans et une de 17 qui ne peuvent pas s'habiller tout à fait comme elles veulent dans la rue sans risquer de se faire agresser ou en tout cas interpeller, voire insulter. On voit qu'il y a encore beaucoup de combats, que l'avortement est remis en cause dans certains pays. Vous en avez parlé, l'excision, c'est un sujet fondamental. Donc oui, le combat féministe a une raison d'être dans cette société et qu'on le fasse avancer, c'est une bonne chose. Après, sur l'exemple que vous prenez, moi, je ne suis pas une femme, donc je ne vais pas commenter le choix des armes de ces femmes-là. Je ne suis pas certain qu'effectivement ce soit
j'ai eu peur que vous disiez qu'est-ce qui vous permet de dire que je ne suis pas une femme pour
faire allusion à l'émission de télé. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur moyen, mais moi j'ai mené beaucoup de combats où je ne suis pas certain d'avoir utilisé le bon moyen pour arriver à mes fins également. J'avoue que ça me laisse un peu pantois. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire effectivement, mais voyez, finalement quelque part elles réussissent leur coup parce qu'on parle d'elles. On parle de ce sujet-là, et si leur but c'est que le débat s'ouvre, finalement, les moyens ont beau être ce qu'ils sont, et honnêtement, franchement, enfin, en plus la statue sur Mandelmas à Bordeaux, enfin, j'arrive pas du tout à comprendre la chose, mais voilà.
Ça réagit à Bordeaux, évidemment, puisque Jacques Chabandelmas a été maire de Bordeaux pendant pendant une cinquantaine d'années. Oui. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir. Je vous écoute avec passion.
Bienvenue sur Sud Radio. Alors, vous l'avez vu, vous, la statue, comme vous êtes de Bordeaux, vous avez vu la statue de Jacques Chabandelmas?
Non, parce que je vais très rarement dans le centre-ville, vu l'état actuel de la ville. Mais moi, je suis outré, offusqué. Le combat de ces personnes-là n'a rien à voir avec la personnalité de Jacques Chabandelmas. Jacques Chabandelmas, il ne faut pas l'oublier, a mené des combats au plus haut élevé, entre autres de défendre la liberté de la France, la libération de la France avec le général Leclerc et le général de Gaulle, et bafouer la personnalité de Jacques Chabandelmas, c'est une honte, parce que, et je ne suis pas un ancien combattant, loin de là, ni un pro-Chaban, mais moi je reconnais quand même que c'est un personnage illustre de notre histoire, et qu'on n'a pas à taguer sa statue, surtout qu'il n'a rien à voir avec le mouvement féministe, et rien à voir avec les combats que mènent ces personnes-là, quoi.
Mais justement...
Philippe Bilger, Stella Capga voulait réagir.
Oui,
Philippe Bilger.
Oui, justement, Michel parlait tout à l'heure d'ouvrir le débat, mais il y a une différence entre ouvrir le débat et décrédibiliser son combat. Si à un moment donné, on a une cause qu'on porte à bras le corps et qu'on a envie de faire parler de cette cause, il y a des meilleurs, effectivement, il y a mille et une façons de communiquer sur sa cause sans toutefois la décrédibiliser.
Je vous coupe, à Bordeaux, les féministes avaient fait une opération rue Sainte-Catherine, alors c'est la plus grande rue de conversion de Bordeaux. Oui. Bernard la connaît comme tous les Bordelais, où elles se sont promenées avec un clitoris géant. Je plaisante pas, ça s'est passé, je crois, le week-end dernier. Oui, c'est toujours plus sympathique que taguer une statue.
Voilà, donc encore une fois, la communication, c'est bien. Communiquer pour porter sa cause, c'est également bien. Mais communiquer dans le but de finalement décrédibiliser, parce que... L'idée, c'est quoi? C'est de faire rallier le plus de femmes possible à la cause du féminisme. Mais si en décrédibilisant son combat, et que moi, par exemple, je suis une femme, je ne me reconnais pas en ces combats-là, pour moi, et je pense pour beaucoup d'autres, on n'a pas envie de participer à ces combats-là. Pourtant, moi également, je suis une féministe. Moi, j'ai travaillé avec des femmes battues, j'ai travaillé avec des jeunes filles violées, des jeunes filles qui étaient même emprisonnées injustement. Donc, je sais ce que c'est que de défendre de véritables combats et des combats féministes.
Non mais je pense que là on parle pas d'action féministe, on est dans ce qu'on appelle l'activisme. L'activisme c'est un choix d'action politique particulier. Des fois ça réussit, des fois ça réussit pas.
C'est plus les féminisme ou de l'extrême gauche.
Non mais c'est de l'activisme, ça s'appelle de l'activisme politique. Les femelles ont fait avancer beaucoup de choses dans certains pays, dans les pays notamment de l'Est, en faisant ce genre d'intervention activiste très violente parfois. Chez nous ça a pas été tout à fait du même niveau. Mais quand ACT UP a recouvert d'un préservatif
l'obélisque de la Place de la Concorde,
ça a eu un impact mondial qui a été très fort dans le combat et la reconnaissance du sida. Donc l'activisme a ça de particulier que parfois il tombe à côté de la plaque. Moi je partage pas, je suis pas activiste, moi je suis un militant, donc je préfère le combat des idées et des choses plus construites. Mais voilà, je pense qu'il y a pas non plus, enfin on n'a pas eu, je pense que la mémoire de Jacques Chaban-Delmas ça remettra tranquillement.
Philippe Bilger, voilà. Le mot de la fin.
Moi, je ne suis ni activiste ni militant. J'essaye tout simplement d'être libre, mon cher Michel.
Merci beaucoup. On remercie Bernard de Bordeaux. Verdict sur Twitter. Dégradation de la statue de Jacques Chaban-Delmas. Les féministes vont-elles trop loin? Et vous êtes, c'est une majorité écrasante, 94% à dire oui. Et avec tellement plus facile de s'attaquer aux objets, c'est Yves T87. Bref, il y a beaucoup. L'Arnaud qui nous dit avoir une telle haine de l'homme jusqu'à s'en prendre à une statue d'un ancien combattant de la libération. Ou encore Malais Martin qui nous dit c'est de la bêtise. Pas du féminisme, donc 94%. Tout de suite, notre second débat.
Les vraies voix Sud Radio.
Quand j'étais petit, je voulais être chômeur. Maintenant, je suis grand, je suis chômeur. J'hésitais entre ouvrier chômeur et patron chômeur, et puis finalement, j'ai pris ouvrier. Eh ben, je suis content parce qu'il y a plus de choix. Les peinards, vous voyez, pour choisir, on a... Ah oui, il y a du choix, hein, c'est bien.
Vous avez reconnu l'inoubliable Coluche, qu'on regrette beaucoup avec sa liberté de ton, son humour. Ce matin, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a réuni en visioconférence le patronat et les syndicats pour leur présenter les pistes que le gouvernement compte mettre en œuvre dans la réforme de l'assurance chômage. Une réforme qui fait l'unanimité des syndicats contre elle, puisqu'ils ont publié une déclaration commune contre cette réforme la semaine dernière. Le gouvernement a prévu quelques assouplissements, comme l'accès à l'indemnisation lors de la perte d'un emploi qui sera plus restrictif, mais pas pour les jeunes, ou la dégressivité des allocations pour les salaires de plus de 4 500 € bruts par mois, qui ne sera pas à partir du 7e mais du 9e mois d'indemnisation. Tout comme le nouveau mode de calcul des indemnités qui aboutira à la perte de l'indemnisation des personnes qui alternent contrat court et période de chômage. Ce mode de calcul sera finalement mis en œuvre, mais avec un plancher. Réforme de l'assurance chômage, les demandeurs d'emploi sont-ils abandonnés par le gouvernement? Et pour le moment, vous êtes 84% à dire oui. Michel Pouzol, on pense que vous n'êtes pas d'accord en tant qu'ancien député PS avec cette réforme de l'assurance chômage, non, qui est pourtant défendue par tous les anciens socialistes qui ont rejoint Emmanuel Macron.
Oui, c'est bien ça qu'on la reconnaît. je dirais non, pour moi c'est un véritable scandale et un scandale social incroyable dans un moment où franchement les plus en difficulté n'ont pas besoin de ça. Je voudrais d'abord vous rappeler un chiffre. Une personne inscrite au chômage sur deux ne touche aucune indemnité. Ça c'est la réalité. On croit dans ce pays que quand on n'a plus d'emploi, il suffit de s'inscrire au Pôle emploi et qu'on a une indemnité. C'est faux, 1 sur 2 n'en a pas. Ce qui fait qu'on sous-estime aussi le nombre de chômeurs, parce qu'il y a plein de gens qui arrêtent de s'inscrire à Pôle emploi, parce que ça sert à rien, et donc qui sont en rupture de banc totale. Là, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que 40% des chômeurs vont perdre une partie d'un pouvoir d'achat qui est déjà érodé. Dans un moment où vous le regardez dans l'actualité, j'aurais pu en parler, les plans sociaux se multiplient. On voit Sanofi qui n'a pas réussi à faire un vaccin, qui en profite pour licencier à tour de bras et à démanteler sa recherche. On voit des entreprises qui chaque jour ferment, d'autres qui vont fermer parce que la crise sera passée par là. Donc on va nourrir la masse de ces chômeurs. Eh bien faire ça, c'est d'avoir aucune conscience de ce que vivent les gens au quotidien. Et je voudrais vous dire une chose. Vous savez que je me suis beaucoup intéressé, pour des raisons personnelles, mais aussi politiques, à la pauvreté et à la grande pauvreté. Et je disais à une époque que tout le monde pouvait tomber dans la pauvreté en France, et c'est faux. Tout le monde ne tombe pas dans la grande pauvreté, parce que nos systèmes de protection, que ce soit l'assurance chômage, que ce soit l'assurance maladie, que ce soit le système des retraites, protègent à peu près 40% de la population des risques de très grande pauvreté. C'est un parachute pour ces gens-là. Eh bien, si on paie des trous dans ce parachute-là, on accroît la part de la population française qui peut se retrouver demain dans une très grande pauvreté, une très grande précarité. Et je vais vous dire une chose que je trouve scandaleuse dans cette réforme. C'est que c'est une réforme uniquement comptable. On va baisser le coût de l'assurance chômage, globalement, pour des raisons comptables, mais le coût de la pauvreté qui va en être issu, eh bien, va bien falloir que la société le paye. Et croyez-moi, il coûte plus cher à la société, à vous et moi, à ceux qui travaillent, à ceux qui cotisent. La pauvreté coûte plus cher que l'indemnisation chômage. Mais par contre, ça se voit moins sur la feuille de paye. Et c'est ça le cynisme absolu. Et quant aux socialistes qui peuvent avaler ce genre de choses en ayant soi-disant défendu les idées du socialisme, je ne ferai pas de commentaires, mais j'espère qu'ils vont se laisser pousser la barbe, parce que s'ils se rasent devant leur miroir, ils risquent de se couper.
Il ne va pas se laisser pousser la barbe, mais c'est Philippe Bilger qui va réagir.
Est-ce que ce ne sont pas des socialistes réalistes, mon cher Michel ? Mais non, là je plaisante à peine, je crois qu'en effet, sans être un spécialiste de ce que vous venez de dire, j'ai bien conscience que le gouvernement va raréfier, réduire la voilure sur ce plan-là. Je me demande au fond si derrière cela, il n'y a pas, une volonté de compensation. On a été obligé de lâcher l'abonde avec le quoi qu'il en coûte pour lutter contre les détresses liées aux sanitaires, est-ce qu'on ne cherche pas, consciemment ou non, à resserrer les boulons de l'autre côté dans ce qui est, on pourrait qualifier cela de presque de normalité sociale ? Je m'interroge, mais je serais curieux d'avoir votre avis.
Stella Kamga, est-ce que quelque part, ce que dit Philippe Bilger, c'était le point suivant que j'avais préparé, est-ce qu'il ne va pas falloir trouver beaucoup d'argent vu le quoi qu'il en coûte qu'on fait depuis maintenant un an, et que la réforme de l'assurance chômage, c'est la phase 1 pour combler la dette Covid.
C'est exactement ce que j'avais préparé en fait dans ma recherche, parce qu'en réalité,
les grands esprits se rencontrent.
C'est pas que les demandeurs d'emploi, il y a aussi les auto-entrepreneurs et toutes ces personnes-là en réalité qui voient leur situation s'empirer et qui assistent littéralement à leur ruine avec la situation du Covid et tout ce que ça comporte. N'oublions pas qu'il y a des personnes qui ont fait des prêts pour justement pouvoir passer cette période de Covid, mais en réalité quand on fait un prêt pour combler le prêt qu'on avait déjà fait, en réalité, on est en train de creuser sa tombe. Et n'oublions pas que l'idée même du prêt, c'est quoi ? C'est de pouvoir, étendre sa société pour des auto-entrepreneurs et d'être indépendant. Mais quand on prend un prêt pour rembourser le prêt ou même payer les factures, en réalité, le prêt, il n'aura servi à rien. C'est-à-dire que la boucle, elle est infernale, on tourne en rond. On continue de s'endetter. Au final, le prêt, il ne nous sert même pas à jouer en réalité de ce pourquoi on l'a pris.
Très court, pour répondre
à Philippe, non, ce n'est pas la même chose, puisque l'assurance chômage est payée par les cotisations des employeurs et des salariés, donc ça n'a rien à voir avec les aides déclenchées par l'État. C'est pas du tout les mêmes budgets, c'est pas le budget de l'État, c'est un budget paritaire.
Mais excusez-moi, dans le déficit des 3% de Maastricht, il y a tout qui est compté.
Hein. Oui, mais là dans le cas présent,
les déficits publics et les déficits sociaux.
Sauf que dans le présent, oui, mais là c'est dans l'idéologie économique. Dans la réalité des chiffres, le système de chômage est payé par les cotisations sociales. Et comme la promesse de Macron était de faire baisser les cotisations sociales pour effectivement répondre à un certain nombre d'injonctions européennes et pour satisfaire un certain nombre d'actionnaires de grandes entreprises qui l'ont beaucoup aidé, eh bien, il va au bout de sa promesse en marchant une nouvelle fois de plus sur les pieds des plus pauvres. C'est plus simple.
On était à Bordeaux il y a quelques minutes avec Bernard. On traverse le Grand Sud direction le Gard. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette réforme de l'assurance chômage ?
Eh bien, il y a longtemps qu'elle aurait dû être faite, moi, à mon avis. Alors, je ne veux pas satisfaire, il y en a qui vont grincer les dents, ils ne seront pas contents. Mais j'appelle ça la politique de la main assistée. Les gens tendent la main, on leur donne. Alors, moi, j'ai un exemple chez moi. J'ai mon fils qui est au chômage. Il gagnait bien sa vie. Là, il touche 1500 euros au chômage. Il m'a dit, mais pourquoi je vais aller travailler ? Parce que 1500 euros... Ça va pour vivre, je n'en ai pas besoin, je vis chez papa-maman, c'est bien.
Ah oui, c'est sûr que quand on vit chez papa-maman et qu'on n'a pas de dépenses, c'est 1500 euros d'argent de poche.
Ouais, mais il est très bien sa vie, hein, gagner 1500 euros de chômage.
Bah oui, il gagnait 5000 euros pour les travailler, donc voilà, c'est pour ça. Mais je vais prendre un autre exemple. Il y a un de ses amis qui vient passer de temps en temps, un mois, deux mois à la maison. Et il dit, alors il ne travaille pas, puis d'un coup il dit, bon, je vais chercher du travail. Et il revient trois jours après, il a du boulot. Donc, et mon fils m'a dit, mais papa, du travail, il y en a. C'est les gens, ils ne veulent pas travailler. Je vous prends un troisième exemple. J'ai une amie qui part souvent en Inde. Elle part 6 mois en Inde. Là-bas, avec elle, il n'y a que des chômeurs et des rémistes. Parce qu'on ne pointe plus, on pointe par Internet. Les gens, ils travaillent au noir, mais ils continuent à encaisser le chômage. Et ça, c'est, le fléau, il est là. C'est pas l'histoire du Covid maintenant. En réalité, ça vient d'avant. Le chômage, les gens en profitent et abusent. Ils abusent. Moi, je suis prêt à parier que sur les, je sais pas combien de millions de chômeurs, il y en a au moins un quart qui sont pas des chômeurs.
Alors, excusez-moi, mais sur les 5 millions de chômeurs, il y en a déjà 2 millions et demi qui n'ont aucune indemnité. Donc ceux-là, oui, ils partent pas en Inde, ils vont nulle part, ils ne touchent 0 euro.
Oui,
zéro,
oui, non,
pas 1500 euros comme bénéfice.
Je parle de ceux qui touchent.
Ah, ben bah oui, mais c'est déjà ces 2 millions.
Mais ceux-là...
Et moi, pour avoir été au chômage très longtemps et avoir cherché beaucoup de boulot et avoir accepté tous les boulots que je pouvais trouver, croyez-moi, la petite ritournelle, il y a du boulot, on en trouve quand on veut. Moi, je vous mets au défi de vous retrouver dans la situation dans laquelle j'étais à 40 ans. Et là, on en reparlera. Parce que moi, j'ai connu la réalité du marché du travail. Et croyez-moi, c'est pas ce que vous racontez. Ça, c'est un fantasme, monsieur. Ça n'existe pas. Il y a aujourd'hui... une véritable difficulté à trouver un emploi. Que certains jeunes se disent, bon, bah, allez, je vais prendre une année sabbatique parce que pourquoi pas, c'est une autre question. Mais globalement, la situation sociale en France, elle est tragique. Et il y a des gens qui meurent de faim aujourd'hui dans ce pays. Et c'est pas parce que le système de chômage ne suffit pas.
On meurt pas de faim en France.
On ne meurt pas de faim,
enfin. Pas leur
vous avez
faim,
vu,
ça
ouais.
C'est clair. Mais mourir de faim,
il
non.
Il suffit de traverser la rue, hein, c'est bien connu.
Bah, moi, j'aimerais bien.
Verdict sur Twitter, réforme de l'assurance chômage, les demandeurs d'emploi sont-ils abandonnés par le gouvernement? Vous êtes 84% à dire oui. On remercie Olivier Dugard. Dans quelques instants, le sujet va être beaucoup plus léger puisqu'on va jouer. On va jouer au roi de l'info avec Cyprien Pézril, pardon. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Stella Kamga et Michel Pouzol. Et on va jouer au roi de l'info avec Cyprien Pézril.
Les vraies voix Sud Radio. Roi de l'info.
Christelle, bonjour Christelle.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez d'où Christelle?
De Chalon de Provence.
Dans les Bouches-du-Rhône.
C'est ça.
Il a fait beau aujourd'hui?
Non, pas du tout. Aïe. On nous avait prévu du beau temps, mais c'est resté couvert.
Aïe, bon, le soleil, vous allez le trouver sur Sud Radio. Je vais vous proposer, Christelle, de choisir une de nos trois vraies voix avec laquelle vous allez pouvoir jouer contre les deux autres. Est-ce que vous voulez jouer contre Philippe Bilger, Michel Pouzol ou Stella Kamga?
Contre
Avec.
Alors, avec Philippe Bilger.
Avec Philippe Bilger, excellent choix.
Notre star.
Oui, j'espère notre le star démontrer.
C'est toujours lui qu'on choisit, vous avez remarqué. Hein.
Ah oui, oui.
Non.
Alors, je vais vous poser plusieurs questions, vous répondez en premier, et vous avez le droit de vous tromper. Ensuite, Philippe Bilger, pourra vous aider, c'est bien compris?
Allez, ça marche.
Allez, première question. C'était il y a 30 ans, aujourd'hui, le 2 mars 1991. Gainsbourg se barre, il décède à l'âge de 62 ans. Et les Français l'apprennent le lendemain à la télévision. Pas de réseaux sociaux et des chaînes d'infos, évidemment, à l'époque. Écoutez, c'était le journal de 20h d'Antenne 2.
La disparition de Serge Gainsbourg. Il est mort hier soir à Paris, à l'âge de 62 ans, à son domicile. On ignore encore les causes exactes de son décès. Mort naturelle, indiquent les premières informations.
Christelle, qui est-ce qui présentait le 20h d'Antenne 2 à l'époque? Est-ce que c'est Patrick Poivre d'Arvor, Daniel Bilalian ou Bruno Mazur?
Je peux.
Bruno Mazur.
Bravo.
Et non,
Daniel Bilalian.
Daniel Bilalian, malheureusement. Et oui.
Bilalian.
Et oui. Un point pour moi.
Un point pour Stella et Michel.
Allez, seconde question.
Bilalian, bien sûr.
Seconde question, 5 avril 1986. Serge Gainsbourg est chez Michel Drucker, un Gainsbourg quelque peu ivre, qui tente de bafouiller quelques mots en anglais à une artiste invitée en plateau. Écoutez.
I said I want to fuck her.
Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He said you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. C'est... Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs.
Et on a une certitude, c'est que Michel Drucker est pas bon en anglais.
Christelle, à qui s'adresse Gainsbourg? Est-ce qu'il s'adresse à Mariah Carey, à Aretha Franklin ou à Whitney Houston?
À Whitney Houston.
Ouais. Excellent. Égalisation. Bravo, Christelle.
Bravo, Christelle.
Qui a été fâchée pendant des années après Drucker, après cette émission-là.
C'est vrai
elle l'a extrêmement mal pris. Oui. Sur le plateau, elle a sauvé les trucs.
Ah non, parce que c'est
scandale absolu.
Oui, c'était pas du tout une situation drôle.
Le second degré français, elle connaissait pas.
Oui, enfin, ouais. C'était peut-être pas que du second degré.
Ouais. Non, il l'a redit.
Il a osé.
Il aurait été prêt d'aller au premier.
Troisième question, Christelle. Serge Gainsbourg, un homme public, une star adulée, des fans tous les jours devant chez lui, au de Verneuil à Paris, mais aussi des failles, de la fragilité, une timidité. Jane Birkin a partagé sa vie pendant 10 ans avec lui. Écoutez ce qu'elle a confié à ce sujet sur France 3 vendredi dernier.
Serge était d'une très grande pudeur. Les gens imaginent que, je ne sais pas, qu'il flottait rue de Verneuil à poil. Non.
Et alors, qu'a-t-elle dit ensuite, Jane Birkin? Première proposition, moi, je ne l'ai jamais vu à poil, pourtant. Deuxième proposition, par contre, moi, j'étais tout le temps à poil. C'est la deuxième proposition. Ou troisième proposition, de toute façon, je n'avais pas trop envie de le voir à poil.
Ah, c'est... Ah. Allez.
Je dirais la deuxième proposition.
Bravo.
Philippe Bilger?
Je suis d'accord.
Ouais. Et non, c'était la première, écoutez.
Non. Oh. Serge était d'une très grande pudeur. Les gens imaginent que, je ne sais pas, qu'il flottait rue de Verneuil à poil. Non, moi, je ne l'ai jamais vu à poil debout.
Ah et bon oui, bon, Christelle, c'est quand même gagné. Vous restez en ligne. Et vous allez...
Non, bravo, Christelle. Hein. Elle peut
très bien rester à poil et ne pas avoir vu Serge à poil.
Voilà. Et vous allez rester en ligne. On va vous offrir un super mug Sud Radio. Merci beaucoup, Christelle.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci à vous et merci de votre fidélité au poste, Christelle de Salon de Provence. À 18h30, notre grand débat. Anne Hidalgo est-elle une candidate crédible pour 2022? Et pour le moment, alors là, c'est un score soviétique. Vous êtes 95% à dire non. Vous voulez réagir? Vous connaissez le numéro, le 0826-300-300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Philippe David.
Retour des vraies voix. Alors, les vraies voix, la première heure était en mode Serge Gainsbourg. Et dans cette seconde heure, elles sont en mode Alain Chamfort, puisque Alain Chamfort fête ses 72 ans aujourd'hui. Et toutes les vraies voix ont quelque chose d'une chanson d'Alain Chamfort. Philippe Bilger se plaint toujours que le temps passe trop vite dans les vraies voix. C'est pourquoi cette chanson est de circonstance.
Et c'est le temps qui court.
Ça vous va, Philippe Bilger?
Très bien, très bien. Et j'aime beaucoup Alain Chamfort.
Ah oui, très très bon chanteur et très bon compositeur.
Et c'était... personnalité très, très délicate, très intelligente, très fine.
Un peu comme moi.
Il aurait pu être aux vraies voix.
Ah oh bah il serait le bienvenu avec d'ailleurs.
Face à Michel.
Stella Kamga est un peu l'africaine abyssine des vraies voix. C'est pourquoi cette chanson écrite par Gainsbourg et interprétée par Chamfort est faite pour elle. Ça vous va, Stella?
Ah, si c'est comment parler, Philippe.
Avec sa barbe de vieux loup de mer, Michel Pouzol nous rappelle inéluctablement ce tube intemporel d'Alain Chamfort.
On l'attendait.
Écrite aussi par Gainsbourg.
Oui.
Ça vous va, Michel?
Bah, pour tout vous dire...
Dans le micro.
Ouais, autant j'ai pas le pied marin, mais pour que vous sachiez toute ma vie, finalement, il y a quelques années, je chantais avec 30 barbus comme moi dans une chorale de chants de marin qui s'appelait les Barbus de la Salmouille. Alors, s'ils m'écoutent du côté de Marcoussis, et ben voilà, donc les chants de marin, les bars de marin, les soirées de marin, la mer, non, mais tout le reste qui va à côté, rhum et bière, ça va.
Oh bah, c'est parfait.
Et chansons.
Et Cyprien Pézeri, le roi de l'info, au clin d'œil et aux réseaux sociaux. sociaux de Jamel Alaria et Zacharias au Standard. À 18h30, notre grand débat. Anne Hidalgo est-elle une candidate crédible pour la gauche en 2022? Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826-300-300 et Twitter. Ça va les vraies voix?
C'est parti.
Très bien.
Tout va bien. Prête pour cette deuxième heure?
Très.
Eh bien écoutez, on va tout de suite retrouver notre ami Frédéric Dabi.
Les vraies voix Sud Radio.
Bonsoir Frédéric Dabi.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Permettez-moi de vous dire qu'une chanson de Alain Chamfort qui vous caractériserait parfaitement serait Géant. Est-ce que ça vous va?
Ah, oh, c'est sympa. Moi j'aimais bien Bon Baiser d'ici dans les années 80, une chanson un peu à la mode soviétique qui était extrêmement poétique à la Gainsbourg. Mais voilà,
absolument, une très bonne chanson, mais de 83 je crois.
Oui, exactement.
Alors, c'est le tableau de bord politique Paris Match Sud Radio IFOP Fiducial qui vient de sortir il y a quelques minutes. Et on va commencer par parler, mon cher Frédéric Dabi, du président de la République. Un président de la République qui a 41% des Français qui l'approuvent.
Oui, pour la deuxième mois consécutive, Philippe, il est parfaitement stable à 41%. Ça fait maintenant quasiment un an depuis le début de la crise de la Covid qu'il a une popularité très stable. Il est certes minoritaire, mais il a une popularité figée, un glacis de popularité qui fait que malgré ou grâce à la crise du Covid, il reste à un niveau très supérieur à ses deux prédécesseurs. Écoutez, François Hollande, en mars 2016, qui était en train d'être fracassé par la loi travail, n'était qu'à 22%, 19 points de moins. Nicolas Sarkozy, en mars 2011, qui venait de perdre très sévèrement les élections cantonales, était à 31%. Et ce qui est très intéressant, Philippe, dans cette enquête, c'est pas seulement cette cote qui ne bouge pas, c'est vrai que ce n'est pas très spectaculaire, mais c'est par famille politique. On n'arrête pas de parler. On a vu la une de Libé ce week-end sur cette gauche qui ne choisirait pas Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, etc. Et ben Emmanuel Macron, pour la première fois depuis quasiment 3 ans, a une cote de popularité, d'approbation dans ce baromètre fiducial Sud Radio Paris Match, supérieure à gauche qu'à droite. Et le fait majeur, c'est que d'un côté, Emmanuel Macron gagne des suffrages chez les jeunes. Il y a eu Brut, il y a eu le pari avec les deux youtubeurs. Il est à 62% chez les moins de 25 ans. En revanche, du côté du peuple de droite, du côté des personnes âgées, sur la question de l'insécurité, qui est un des seuls thèmes qui s'invite en dehors du coronavirus, sur la question des menus sans viande, on a de plus en plus de personnes issues de la droite qui expriment leur mécontentement.
Eh bien, il y a quelqu'un qui est venu de la droite, c'est Jean Castex, le Premier ministre, et lui, il gagne un point à 39% d'opinion favorable.
Oui, tout à fait. Lui, il est derrière le président. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on a un Premier ministre fusible et pas un président paratonnerre comme à l'époque d'Edouard Philippe. Lui aussi perd plutôt à droite, gagne chez les jeunes et a un niveau quasi équivalent entre la gauche et la droite. C'est en ça que ce baromètre me paraît très singulier par rapport aux enquêtes IFOP Paris Match Fiducial Sud Radio précédentes, puisque au-delà du second tour hypothétique Le Pen-Macron dans lequel tout le monde plonge avec délice alors que nous sommes à 14 mois du vote, qu'on ne connaît pas l'offre électorale, que tout le monde s'était déjà trompé en faisant 3 ans de commentaires avant 2002 sur la finale annoncée Chirac-Jospin, il faut regarder que la structure de popularité du président est en train de changer. Elle va davantage chez les jeunes, davantage à gauche, et il commence à perdre à droite.
Enfin, il y a les conversations des Français, et un sujet écrase tout, le Covid, puisque le premier point, c'est la possibilité d'un nouveau reconfinement en France. Le second, la propagation de l'épidémie en France. La troisième, la campagne de vaccination en France. La quatrième, le confinement partiel des Alpes-Maritimes et du Nord-Pas-de-Calais. Et la cinquième, la diffusion des nouveaux variants du Covid-19. Le Covid fait carton plein.
Ben oui Philippe, ça fait maintenant presque un an que le Covid impose sa cadence sur nos vies et le sujet de préoccupation, de focalisation, de crispation des Français à des niveaux élevés mais un peu moins forts que par le passé, et d'où l'intérêt de voir qu'il y a deux sujets hors Covid qui sont à un niveau élevé voire majoritaire. La mort de ces deux adolescentes dans l'Essonne lors de rixes entre bandes rivales, 55%, mais ça monte à 74% chez les personnes âgées de plus de 65 ans, et également la décision du maire de Lyon de mettre en place des menus uniques sans viande, c'était un de vos débats la semaine dernière. Dans les cantines scolaires, il y a des sujets qui touchent l'insécurité, une insécurité culturelle qui est notée par les sympathisants de droite où, comme je le disais, Emmanuel Macron est en train de perdre un peu de terrain.
Et c'est toujours un plaisir de les décrypter avec vous. Merci beaucoup Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, pour ce tableau de bord politique Paris Match Sud Radio, IFOP fiducial de mars 2021. Allez, on continue avec le tour de table de l'actualité de Michel Pouzol avec un petit départ musical. La Bretagne, ça vous gagne, Michel Pouzol.
Ah, c'est le show ce soir, hein, où vous dormez devant aucun sacrifice. Hein,
Oui, ben moi je voulais vous parler effectivement d'un petit village de Bretagne. Alors le village s'appelle Saint-Senier de Beuvron et son maire s'appelle Monsieur Benoît Amard.
Ça ressemble à Benoît Hamon.
Oui, c'est peut-être pas le hasard. Voilà. Et alors ce petit village de 368 habitants a décidé de se mettre en résistance contre un projet signé d'un milliardaire américain qui s'appelle Elon Musk. Que vous connaissez.
Il est sud-africain. Il vit aux États-Unis. Il est sud-africain.
Deuxième fortune mondiale, je crois, aujourd'hui. Et Elon Musk, qui a créé les voitures Tesla, qui a des projets d'amener.
SpaceX.
Et d'amener quelques milliers d'individus sur Mars dans quelques années. Enfin, qui a des projets comme ça un peu extraordinaires. A lancé, il y a quelques années, grâce à sa fusée SpaceX, le projet Starlink. Starlink, c'est un projet d'une myriade de satellites qui vont permettre d'avoir de l'internet terrestre partout sur la planète et il a besoin pour que son système fonctionne de relais. Donc il a besoin notamment de 3 relais en France qui vont permettre de bifurquer les... Et cette petite commune et eux ont décidé de ne pas se laisser faire en disant que non, ils ne voulaient pas de ce relais installé sur leur commune. Alors j'ai choisi cet exemple parce que ça me semble symbolique du monde dans lequel on rentre quelque part. Moi j'habite, vous le savez, à Brétigny-sur-Orge où Amazon s'est implanté de manière forte et veut implanter un méga data center où tout le monde se bat contre ça. Et c'est un petit peu la lutte du pot de terre contre le pot de fer aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui sont sur leur terrain, qui veulent préserver leur environnement, leur qualité de vie, qui comprennent pas combien une antenne relais...
C'est un gros truc, ce relais.
Non,
ou pas.
Alors, le problème avec des gens comme Elon Musk ou comme Amazon, c'est qu'on sait jamais trop bien ce qu'ils vous vendent. Au départ, c'était 5 mètres, et puis ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus gros que ça, qu'il y avait 20 mètres sous sol, enfin, etc. Donc, il y a une procédure qui est engagée. Et pour vous montrer juste la dispersion, la dichotomie qu'il y a entre ces deux mondes-là, c'est quand Elon Musk a voulu convaincre les élus de ce petit village de Bretagne que c'était vachement bien comme projet, il a fait une visioconférence avec les sapeurs-pompiers américains qui disaient « ça va être formidable pour nous d'avoir ces satellites pour éteindre nos incendies ». Et les petits Bretons ont dit « mais nous, on s'en fout un peu ». Voilà, donc voilà, c'est une bataille qui est en train de se mener.
C'est un peu le remake du village gaulois d'Astérix.
C'est un peu
en Bretagne,
comme
entouré
SpaceX,
par
voilà.
Laudanum, Babaorum, Petit Bonhomme et Aquarium.
On pouvait faire un album Astérix contre SpaceX.
Vous êtes bien sur Sud Radio, 18h17. On se retrouve dans quelques instants pour parler d'une fête clandestine qui a mal tourné. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
C'est une fête clandestine qui avait fait beaucoup parler il y a 3 mois et demi, le 13 novembre dernier à Joinville-le-Pont, une fête qui avait réuni environ 300 personnes dans un pavillon selon la police, 150 selon les organisateurs. Lors de cette soirée, les policiers avaient dû intervenir aux alentours de 2h du matin pour tapage nocturne et pour une rixe à l'intérieur de cette maison, où les forces de l'ordre ont alors utilisé des grenades de désencerclement. Mohamed, 20 ans, étudiant, a perdu un œil et a porté plainte. Nous sommes en compagnie de son avocat, maître Alain Guibert, et de Mohamed. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Mohamed, tout d'abord, comment les choses se sont-elles passées ?
Bah alors, tout d'abord, je tiens à me présenter, donc je m'appelle Mohamed, j'ai 20 ans. Et donc, j'étais en soirée à Joinville-le-Pont le 13 novembre 2020. Et donc, tout se passait bien, il n'y avait aucune rixe, aucune bagarre, rien de tout ça. Et aux alentours de 2h du matin, la police, elle est arrivée. Et en fait, au lieu de séparer tout le monde gentiment et de dire à tout le monde de rentrer chez soi avec une amende de 135 €, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont lancé des grenades. Et avec leur matraque, en fait, ils ont commencé à taper dans les bouteilles et les chichas pour justement donner une impression de bagarre. Alors qu'à aucun moment, il y a eu une bagarre, en fait. C'est ça qui me dérange, moi, fortement dans cette histoire.
Alors, les policiers disent qu'ils ont riposté à des attaques, hein.
Ouais, mais je sais, j'ai bien entendu ce qu'ils ont dit et j'ai lu des articles de leur version des faits et c'est totalement faux. Il n'y a eu aucune bagarre, aucune rixe n'a eu lieu ce soir-là. Et je tiens vraiment à le préciser parce que même en lisant les commentaires qui ont paru dans la presse, en fait, les gens pensent que ce jour-là, les policiers se sont défendus, or que pas du tout ce qu'ils ont fait, c'est en fait simplement attaquer les gens. Et en fait, il n'y a eu aucune rixe, il n'y avait aucune raison de lancer ces grenades. Et en fait, quand ils sont arrivés, tout le monde a pris peur. Donc, ils auraient pu calmer la soirée en évacuant tout le monde sans qu'ils n'aient blessé. Et ils n'ont pas voulu jouer la manière douce, ils ont voulu employer les grands moyens pour finalement.
Alors, maître Alain Guibert, vous êtes l'avocat de Mohamed, qui a perdu un œil suite à l'explosion d'une grenade de désencerclement. Vous avez donc porté plainte. Que répondent les pouvoirs publics, le parquet, etc.?
Alors, pour l'instant, le dossier est récent. Nous avons porté plainte il y a 8-10 jours, donc nous n'avons pas de réponse aujourd'hui. Pas encore, mais c'est un dossier étonnant parce que la réglementation des fêtes, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, dit qu'il faut contrôler toutes les personnes, les faire sortir et leur donner une contravention de 135 €. Dans ce dossier, personne n'a eu de contravention. Et bien évidemment, l'assaut qui a été donné par la police paraît étonnamment disproportionné avec les faits. Et malheureusement, mon client a perdu un œil. Donc c'est tout à fait étonnant. Il n'y a pas eu de sommation avant l'envoi des grenades. Il y a eu destruction. Nous avons des attestations comme quoi il n'y avait pas de bagarre. Et on en a un certain nombre. Donc c'est un dossier dramatique puisque mon client a perdu son œil. Il a 20 ans. C'est quelqu'un qui est étudiant, qui travaille pour payer ses études, qui n'est pas du tout ni un fêtard invétéré, ni un bagarreur, loin de là. Donc je suis totalement surpris par cet assaut de la police.
Mais alors, excusez-moi, on nous demande, nous, de ne pas aller aux restaurants qui sont fermés depuis des mois et des mois, les bars, on n'a plus le droit de rien faire. Est-ce que faire ce type de fête et y aller, c'est pas totalement irresponsable? À 300 personnes, au mieux 150, si j'en crois les organisateurs, dans un simple pavillon, fut-il très grand?
Écoutez, c'est totalement irresponsable, nous l'avons dit à notre client, il en convient, mais ça ne mérite pas de perdre un œil à 20 ans.
Non, mais ça c'est évident. Philippe Bilger, vous voulez réagir?
En fait, la perte de l'œil de Mohamed est une tragédie personnelle, mais Maître Guibert ne m'en voudra pas compte tenu de mon ancien métier. J'ai beaucoup de mal, même lorsqu'à l'évidence j'entends une relation de bonne foi, de ne pas penser à la version contraire, comme Philippe l'a rappelé. Les policiers n'ont probablement pas tout à fait la même, et je préfère pour l'instant m'abstenir, Maître Guibert. Un jour, j'aurai connaissance peut-être du futur de votre action, qui est tout à fait légitime en ce qui concerne la perte d'un œil. Ensuite, les échanges, la contradiction sera très éclairante.
Alain Guibert.
Bah écoutez, je partage l'opinion de Monsieur Philippe Bilger. Je vais voir ce qu'il m'a répondu en face, mais quoi qu'il en soit, la perte d'un œil dans ces circonstances-là, alors que mon client aurait dû prendre une contravention de 135 €, et en plus ce dossier est dramatique puisque les policiers ont totalement refusé d'appeler les pompiers. Il est donc sorti avec un camarade. Il a été à 300 mètres. C'est lui qui a appelé les pompiers, et ça c'est constitutif de non-assistance à personne en danger, et c'est le rôle de la force publique d'assister les personnes en situation de détresse, qui était le cas de mon client.
Mohamed, qu'est-ce que vous attendez, vous, maintenant?
Moi, j'attends que justice soit faite, et justement juste de rétablir la vérité, surtout parce qu'en fait, ça me dérange que les gens pensent qu'il y a eu une bagarre, et qu'en fait, si bagarre il y avait, c'était légitime qu'ils puissent se défendre avec des armes. Mais là, en fait, comme il n'y a pas eu de bagarre, moi, je pense qu'il y a eu plusieurs soirées clandestines qui ont été stoppées d'une autre manière, avec des contraventions à 135 €. Et c'est ça qui me gêne en fait dans cette histoire, c'est que ça, tout aurait pu très bien se passer, et finalement ça n'a pas été le cas. Donc moi je demande vraiment réparation pour ce qui m'est arrivé, parce que certes c'est irresponsable d'aller en soirée clandestine, mais j'en suis tout à fait conscient, mais il faut savoir aussi qu'à 20 ans on a envie de s'amuser, et que c'est excusable de s'être présenté à une soirée. Ça mérite une contravention, voire même si vous voulez, on aurait pu m'emmener en garde à vue, même j'étais prêt à aller faire une garde à vue ce jour-là, ne pas perdre un œil. Parce que là, on parle d'une mutilation à vie. Et pour avoir perdu un œil à 20 ans, pour être allé faire la fête, et que je vois des commentaires qui m'indignent, moi vraiment, et qui disent c'est bien fait pour lui, j'aimerais bien qu'il soit à ma place et qu'il voit un peu ce que c'est de voir que dans l'œil.
Mohamed, le propriétaire du pavillon, vous l'avez contacté?
Non, pas du tout. Moi, monsieur, j'ai été invité par un ami qui m'a ensuite conduit à la soirée. Donc, je n'ai aucun contact avec l'organisateur ou quoi que ce soit. Je ne sais pas du tout qui a organisé la soirée. Et puis même la soirée, en fait, elle se passait bien. Enfin, c'était une soirée clandestine, certes, et en pleine crise sanitaire. Et ça, je le conçois totalement. Mais de là à ce que l'intervention soit aussi chargée et bien mesurée à l'attaque, ça, par contre, je ne cautionne pas du tout.
Maître Guibert, une dernière question, là, c'est pour le Béotien qui n'est pas juriste. Est-ce que la responsabilité du propriétaire du pavillon peut être engagée?
Non, là, c'est l'intervention de la police qui a causé directement la perte de l'œil de mon client. Donc là, c'est la responsabilité des agents de la force publique.
Merci beaucoup, Maître Alain Guibert et Mohamed, victime d'une grenade des désencerclements qui a été éborgnée. On pense évidemment à vous parce que c'est vraiment pas un âge pour subir une chose pareille, surtout à 20 ans, même s'il n'y a pas d'âge. Soit dit en passant, merci beaucoup à tous les deux. On suivra cette affaire, bien évidemment, sur Sud Radio. Dans quelques instants, notre grand débat. Anne Hidalgo est-elle une candidate crédible pour la gauche en 2022? Eh bien, pour le moment, vous êtes 95% à dire non sur Twitter. Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826-300-300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Qui sera le prochain président de la République? Voilà donc la grande question.
Il faut trouver quelqu'un.
Anne Hidalgo serait-elle l'alternative à gauche?
Je ne veux pas qu'on rentre dans l'élection de 2022 en se disant il n'y a pas d'autre alternative et les trois candidats en place, on les connaît déjà.
Ce qui est à redouter, ce n'est pas le vide politique, c'est plutôt le trop-plein.
Devrais-je avoir honte de ce que nous avons fait pour Paris? Je le revendique.
Il est 20h, voici le nouveau président de la République.
La maire de Paris, Anne Hidalgo.
Toujours parfait, les... C'est une œuvre d'art ce que nous fait Jamel chaque soir, en mélangeant les sons comme ça. C'est un artiste. Bravo à Jamel. Cyprien Pézeri, le débat du soir, c'est au tour d'Anne Hidalgo.
Ouais, c'est ça, Philippe. Et Anne Hidalgo, elle est revenue au centre de l'actualité ces derniers jours. Alors, peut-être un petit peu malgré elle. Rappelons le contexte. La semaine dernière, Nice et Dunkerque apprennent qu'ils sont confinés le week-end pour lutter contre la propagation du Covid. La situation n'est pas bonne à Paris non plus. La capitale est sur la sellette. Et Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, est questionné à la radio sur France Info. Faut-il confiner Paris le week-end? Il répond non et il propose autre chose. Écoutez.
Ne faut-il pas mieux poser la question d'un durcissement du confinement à court terme, de façon à vraiment redonner de l'oxygène et avoir la perspective dans 3 semaines de tout réouvrir?
Un confinement strict de 3 semaines, donc polémique, la mesure n'est pas jugée efficace. La mairie de Paris fait marche arrière, mais ça, Anne Hidalgo ne l'assume pas.
Nous n'avons pas proposé de confinement strict de 3 semaines, voilà.
C'est ce qui s'appelle un bad buzz, ça arrive, vous me direz, oui mais voilà, Anne Hidalgo veut désormais devenir présidente de la République, c'est son ambition pour 2022, elle ne s'en cache plus, on l'a entendu. Il y a certes d'autres possibles candidatures à gauche, on pense notamment à Arnaud Montebourg, mais aucune ne semble évidente. Alors Anne Hidalgo tente de changer son image 100% Paris, elle fait des déplacements en région chaque semaine, elle cherche à exister à l'échelle nationale, critique la politique d'Emmanuel Macron, sauf que sur la route de sa candidature, il y a eu un cafouillage donc. Alors une question, Philippe, on l'a vu, Anne Hidalgo est-elle une candidate crédible pour 2022?
Eh bien, pour le moment, c'est pas franchement l'avis des auditeurs de Sud Radio, puisque vous êtes ça a bougé. On était à 95, on est passé à 94% à dire non. Avec nous, Luc Gras, politologue. Bonsoir, Luc.
Bonsoir.
On était avec Frédéric Dabi de l'IFOP il y a quelques minutes pour la popularité du président de la République et du Premier ministre. Il y a 5 mois pile, début octobre, un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et CNews pour la présidentielle donnait les scores suivants, pour les potentiels candidats issus du Parti Socialiste. 4% pour Olivier Faure, 5% pour Ségolène Royal, 7% pour François Hollande et 9% pour Anne Hidalgo. Est-ce que si on refaisait ce sondage aujourd'hui, on pourrait lancer le message à Frédéric Dabi d'ailleurs, Anne Hidalgo serait toujours en tête selon vous?
De ceux qui ont été sondés, peut-être. Mais enfin, c'est des scores qui sont absolument catastrophiques. Donc, c'est pas avec une approche de vous avez donné des chiffres en dessous de 10%.
Ah oui.
On n'a aucun candidat qui est susceptible de rassembler la gauche et de gagner avec des scores pareils.
Michel Pouzol, vous qui connaissez bien Anne Hidalgo, qui connaissez bien le PS, qui connaissez bien la gauche.
Je connais bien la gauche, je connais bien le PS, je connais un petit peu moins Anne Hidalgo, que j'ai croisé à 2 ou 3 reprises, qui est une femme qui a des qualités remarquables, qui est une femme qui a des convictions aussi, on peut être d'accord ou pas avec elle. Elle a les reins aussi assez solides, parce qu'elle s'en prend quand même beaucoup à Paris, il faut être une combattante pour mener à Paris. Maintenant, est-ce que je la verrai comme candidate à l'élection présidentielle? D'abord, ça va être son choix à elle. Moi, je vous avoue que je serais très dubitatif, pour le moins. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est comment on arrive à ce que la gauche arrive à se retrouver et à créer un candidat unique. Alors, j'ai compris que Jean-Luc Mélenchon irait quoi que coûte que coûte, que Fabien Roussel, pour le PC, était très décidé à aller jusqu'au bout. Yannick Jadot ne fait pas secret de vouloir y aller.
Arnaud Montebourg, Éric Piolle
pourrait dépasser.
Et Olivier Faure?
Olivier Faure, non. Alors, le seul dont je peux vous dire avec certitude qu'il ne l'envisage pas, puisque c'est à Benoît, c'est Benoît Hamon. Voilà, au moins ça, c'est réglé. Donc maintenant, comment on fait pour trouver une convergence pour tous ces gens-là? qui ne suffira pas forcément d'ailleurs à gagner une élection présidentielle, hein, vous le disiez, on est à des scores de, en dessous de 10%, donc on est très loin des 50%, voire des 40% dont vous gratifiez tout à l'heure Emmanuel Macron. Non, honnêtement, je pense que je ne parierai pas beaucoup sur le succès de Anne Hidalgo dans cette course-là, et je ne suis pas certain non plus. Elle a beaucoup de choses à faire à Paris, elle a des gros défis à faire dans cette ville. Je pense que la sagesse serait qu'elle continue à porter ce projet parisien.
Luc Gras, un maire de Paris qui finit à l'Élysée, c'est du déjà vu.
Pardon ?
Un maire de Paris qui finit à l'Élysée, c'est du déjà vu, pour répondre à Michel Pouzol.
Non, mais on est avec Madame Hidalgo, avec tout le respect qu'on a pour elle et toutes les qualités qu'elle a comme gestionnaire de Paris, encore que le bilan budgétaire soit pas si extraordinaire, on a quand même on est avec un prototype de ce que Emmanuel Macron, dans ses grandes heures, appelait le vieux monde. Et c'est de la politique à l'ancienne, rapport de force, conflit, bataille. Je pense pas qu'aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, assez traumatisée par tout ce qu'on connaît actuellement, une candidate comme Madame Hidalgo, qui sait se faire des ennemis plus vite que des amis, peut porter les couleurs de l'ensemble de la gauche rassemblée.
Philippe Bilger.
Moi, je ne suis pas du tout de votre avis, et même en n'étant pas un connaisseur du socialisme comme Michel et comme notre ami Gras de l'analyse politique, je crois
le contraire. Vous sur le socialisme, non, contrairement à Michel Pouzol,
vous
êtes croyant mais non pratiquant.
Par contagion, c'est sûr, mais sérieusement, d'abord, je suis persuadé que les sondages, les intentions de vote d'aujourd'hui n'ont pas grand sens parce qu'on est encore très éloigné de l'échéance présidentielle. Deuxième élément, je suis persuadé qu'Anne Hidalgo prépare sa candidature, et on a évoqué il y a quelques jours l'existence d'une plateforme dans la presse, ça n'est pas indifférent. Et troisièmement, malgré la pléthore virtuelle des candidats à gauche, je crois qu'elle sera une de celles qui probablement aura peut-être le plus d'adhésion, parce qu'elle est capable de rassembler énormément et largement. Bien sûr, elle n'aura pas l'appui de Jean-Luc Mélenchon, dont la seule cause qui l'intéresse est la sienne. Mais il y aura les autres, tous ceux qui ont été évoqués par Michel, là, je ne suis pas persuadé que s'il y avait une possibilité véritable d'union de la gauche, eh bien, que Anne Hidalgo ne soit pas la plus légitime et la plus fiable pour la porter.
Luc Gras.
Je parle de la gauche, hein, entendons-nous.
Alors, cher Philippe, c'est pour une fois, je ne partage pas du tout votre point de vue, car je pense que Madame Hidalgo, c'est quelqu'un qui est très sévère, qui a un profil conflictuel et qui n'est pas populaire. J'ai écarté avant l'émission ses codes de popularité sur les derniers temps. On peut remonter assez loin. C'est quelqu'un qui ne fédère jamais entièrement sa base politique, déjà, ce qui est essentiel en politique. Elle est montée à 70%, mais pas plus. Et surtout, ça s'est érodé. Et surtout, elle sera victime de cette dispersion au niveau de la gauche, qui fait qu'il ne me semble pas qu'elle ait le charisme d'un François Mitterrand pour rassembler sa famille politique.
On va au 0826-300-300, direction, tiens, une des capitales du cassoulet, Castelnaudary. Bonsoir Valentin.
Oui, bonsoir Philippe David, bonsoir à tous. Bonsoir.
Écoutez, vous êtes la capitale du cassoulet, là le sondage a encore bougé, on est repassé à 95, je me dis que pour les électeurs de Sud Radio, pour Anne Hidalgo, c'est la fin des haricots.
Ah oui, vous l'avez déjà fait, oui.
Oh là là.
Il va commencer à être rayé. Hein.
On vous écoute.
Quel est le meilleur cassoulet de France?
Oh, bon, on va dire Castelnaudary pour faire plaisir à Valentin. Voilà. Et là, c'est un Toulousain qui le dit, vous voyez.
Oui, non. Bah, j'ai envie de résumer ma pensée en une seule phrase. Anne Hidalgo, oui, pour la gauche, mais pour la France, certainement pas. Mais vraiment certainement pas. Pourquoi oui tout de même pour la gauche? Parce que je pense qu'elle incarne en fait ce qu'est la gauche aujourd'hui. Alors après plus ou moins, parce que c'est quand même un sacré bazar en ce moment à gauche. Parce qu'en fait, ils pourraient. Le seul moyen en fait qu'a la gauche de gagner, c'est de pouvoir s'allier ensemble. Sauf qu'ils sont tellement bêtes qu'ils ne s'allient pas ensemble. Alors j'ai envie de dire fort heureusement pour moi, parce que je ne suis pas de gauche, mais pour eux, voilà, je pense que c'est la seule solution qu'ils ont. Ah bah oui, non, bah, ça c'est sûr. Je ne m'en cache pas. Mais pour eux, en tout cas, je pense vraiment que c'est la seule solution qu'ils qu'ils ont pour de gagner en 2022. Et puis Anne Hidalgo, elle a quand même été élue deux fois. Alors on me dit qu'elle n'arrive pas à rassembler les gens. Moi, j'ai quand même été assez scotché qu'elle ait été élue une deuxième fois, surtout que les Républicains avaient quand même mis quelque chose d'assez lourd, enfin d'assez costaud. Hein. C'était quand même pas n'importe qui à côté.
Rachida Dati.
Rachida Dati. Moi, j'aurais clairement voté pour elle parce que je pense qu'il fallait vraiment faire barrage complet à Anne Hidalgo et à sa folie politique qu'elle mène sur Paris. Elle est en train de pourrir la capitale française qui était déjà assez pourrie comme ça. On est en train de rendre la capitale française, c'est un caniveau. Voilà, je le dis très honnêtement, ça ne ressemble plus qu'à cela. Voilà.
Mais donc, alors, pour vous, Valentin, Anne Hidalgo, bon choix pour la... mauvais choix pour la France, vous l'avez dit, vous êtes de droite, ouais. Donc vous voterez pas pour elle. Mais par contre, bon choix pour la gauche, pour vous, elle serait une bonne candidate, ben, comme le disait le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio il y a 5 mois, où elle était la meilleure candidate socialiste.
Oui, tout à fait.
Alors, on va faire réagir Luc Gras. Luc Gras, est-ce que vous êtes d'accord avec Valentin ? Peut-être pas sur la mauvaise candidate pour la France, mais la meilleure candidate pour la gauche.
Je ne suis pas certain, parce qu'il y a d'autres noms qui n'ont pas été évoqués. C'est une présidentielle qui va être très incertaine. Il n'y a plus de leadership avéré, ni à droite, ni à gauche. Donc, la jurisprudence Macron, entre guillemets, peut très bien revenir. Il y a des candidats qui peuvent... apparaître au dernier moment et Madame Hidalgo, elle a son côté un peu rigide, un peu pas très humain au contact, qui fait que, à mon avis, je prends un exemple, une candidate, encore eût-il fallu qu'elle parte à l'élection, mais une Taubira, elle a à gauche une cote de popularité qui peut être largement au niveau de Madame Hidalgo, par exemple. Moi, je pense que Madame Hidalgo, elle manque de ce charisme pour rassembler la gauche. Maintenant, l'intervention de l'auditeur, elle est assez sarcastique d'une certaine manière parce qu'il se dit de droite, il dit que ce serait une excellente candidate pour la gauche.
Stella veut vous poser une question, mon cher Luc.
Oui, et également à Michel, parce qu'ils connaissent bien la gauche.
Il est docteur S-gauche.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Ségolène Royal ?
Alors, moi, je vais répondre d'abord sur ce qu'on vient de dire sur
en rêve.
Sur Anne Hidalgo. Déjà, en précisant une chose, rappelez-vous que un an et demi avant l'élection de 2012, François Hollande était à 3% dans les intentions de vote. 3%. Et il y avait un tapis rouge déroulé devant Strauss-Kahn. Je vous rappelle que
il y a eu un accident industriel.
Oui, mais je vous rappelle que lors de la dernière élection, présidentielle,
il est reparti avec 3%.
Mais lors de la dernière élection présidentielle, si tout s'était passé comme on nous l'annonçait, c'était François Fillon qui rentrait à l'Élysée assez tranquillement. On a vu que l'histoire en a décidé autrement. Donc,
deuxième accident industriel.
Oui, mais méfions-nous des dérapages des accidents industriels. Je trouve qu'ils se répètent assez fréquemment au moment des élections présidentielles. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous le disiez, moi, effectivement, j'ai appelé de mes voeux, mais modestement, et je ne suis même pas sûr que, là, pour le coup, ce soit la parole de génération, même si on a beaucoup d'affection pour elle. Mais oui, je pense que Christiane Taubira aurait une force beaucoup plus grande pour réunir la gauche. Gagner la gauche, c'est très difficile, mais pour la réunir, ça c'est sûr. Quant à la réponse pour Ségolène Royal, que j'ai soutenue il y a très longtemps quand elle était candidate au présidentiel, je pense honnêtement que c'est vraiment le monde d'hier et que la page doit se tourner. Oh. Et que si la gauche, avec tout le respect que j'ai pour Ségolène Royal, si la gauche veut reconstruire quelque chose, ce n'est pas avec les formules d'avant-hier.
Vous avez tous entendu Philippe Bilger.
Alors,
qui est un vrai royaliste et qui veut réagir.
Qui Christiane Taubira est le futur, mon cher Michel, je préfère largement la Ségolène du passé. Hein,
ça, j'ai bien compris, Philippe.
Parce que alors, maintenant, Gras et vous-même, pardon, j'ai oublié votre prénom, Frédéric.
Luc,
vous allez me plomber ma soirée en m'annonçant les virtualités prometteuses de Christiane Taubira.
On n'est pas là, cher Philippe,
on
pour
a
donner
préparé
nos impressions personnelles.
Pour Philippe Bilger.
On est là pour analyser la situation. Moi, je suis oui, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant. Chirac
en 94.
Vous pourriez
prendre garde à moi, tout de même.
Mais vous avez raison. C'est un élément à prendre en considération. Quand Chirac est candidat en janvier 95, il est à 12%. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir une arrivée de dernier instant. Hollande s'est imposé parce qu'il y a eu le massacre avec Strauss-Kahn. Ouais. Mais vous regarderez quand même qu'à chaque fois, ces candidats de la dernière minute ont une vraie porte, en tout cas, parce que moi, je me rappelle très bien de l'attitude d'Hollande à l'époque,
porte une dimension un peu sympathique, humaniste, comme Chirac, comme Hollande. Et pour gagner au dernier moment et faire un petit peu un hold-up, il faut quand même avoir cette capacité de séduction à ce jour qui n'existe pas chez Madame Hidalgo. Elle a quand même gagné contre la remplaçante de Griveaux, Madame Buzyn, et Madame Dati. C'était quand même pas des adversaires du calibre de ceux qui seront à la présidentielle.
Mais justement, est-ce que le vrai problème d'Anne Hidalgo, c'est pas de très bien parler aux bobos de Paris-Centre, mais aller dire que le diesel, c'est pratiquement criminel de rouler avec à l'ouvrier agricole qui habite à Castelsarrasin et qui va travailler à Montèche, qui gagne le SMIC et qu'il n'a pas les moyens de se payer une voiture plus récente, bah, là, ça va vraiment coincer.
Je crois que vous avez tort,
Philippe, parce qu'en réalité, c'est un reproche qu'on lui fait, mais je pense qu'elle va beaucoup plus dans la France non parisienne qu'on le croit.
Oui, tout à fait.
Et que quand on voit sa psychologie et sa personnalité, ça n'est pas une femme qui a des difficultés de relation avec autrui. Elle peut être dure dans sa vie municipale, donc je ne suis pas sûr que ce sera forcément un handicap,
Philippe. Et pour vous, Luc Gras ?
Oui, alors moi, je ne partage pas cette analyse de mon cher ami Philippe, parce que parler de Madame Hidalgo aux bobos parisiens, effectivement, ça passe très bien. Parler de Madame Hidalgo et des transports aux banlieusards, qui savent très bien que dans Paris, c'est une catastrophe, les transports, etc. Faites le bilan de Paris aux Parisiens, soit, et encore, mais faites le bilan de Paris à tous ceux qui habitent, ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont quatre fois plus nombreux en Ile-de-France. Pour eux, Paris, c'est un ghetto de bobos où ils ne peuvent pas circuler, où c'est sale, où il y a des problèmes incommensurables. Donc, je ne pense pas que le bilan de Madame Hidalgo soit aux yeux, en tout cas des banlieusards, si fantastique.
Merci beaucoup, Luc Gras, politologue. Verdict sur Twitter, un verdict sans appel. Anne Hidalgo est-elle une candidate crédible pour la gauche en 2022 ? Vous êtes 95% à dire non. Dans quelques instants, on va retrouver Cyprien Pézeril pour le clin d'œil des vraies voix. Et tiens, je crois que c'était une chanson de Alain Chamfort, Bulle de savon. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Stella Kamga et Michel Pouzol. Je dois faire mon mea culpa, Bulle de savon, c'est une chanson de Michel Polnareff et pas d'Alain Chamfort, Cyprien Pézeril, parce que c'est votre clin d'œil, DVV.
C'est ça, on est au téléphone avec Stéphane Ruiz. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Alors dans cette crise du Covid-19, il y a des perdants, on en a déjà beaucoup parlé, puis il y a aussi des gagnants, et vous êtes de ceux-là, vous êtes le gérant de la boutique de savon Massilia à Metz dans l'Hérault, et quand les gens viennent chez vous, ils repartent les bras remplis de savon, c'est ça ?
Oui, effectivement, puisque je travaille moi avec la dernière savonnerie artisanale et familiale de Marseille, la savonnerie Le Sérail, donc c'est du véritable savon de Marseille. Et durant tout l'été, les gens se sont un petit peu rués sur le véritable savon de Marseille, car c'est un désinfectant pour les mains excellent pour le Covid.
Alors c'est quoi, vous avez calculé cette hausse un petit peu ?
Je pourrais dire qu'elle est à peu près de 10 à 15% dans la saison estivale.
Et alors, qu'est-ce qui explique ce succès, selon vous ?
Alors, je pense que le fait qu'il y ait les annonces publicitaires de l'État, qu'on dit souvent de se laver les mains avec le vrai savon de Marseille, donc automatiquement, les gens se sont intéressés. Et lorsqu'ils voient que c'est du véritable savon de Marseille fabriqué dans la pure tradition marseillaise, bien entendu, ben, ils font des petits stocks aussi pour l'hiver, quoi. Ouais. Voilà.
Ouais, c'est ça. Pourtant, le...
Vous, quand vous passez un savon, c'est pas une ongle.
Je savais que l'un d'entre vous allait ressortir. Je sais pas, je l'ai vu venir.
Pourtant, Stéphane.
Ah, oui.
Ah bah répondez à Philippe Bilger quand même.
Non, mais c'est une très belle initiative tout de même.
Oui, non, bien sûr, je veux dire, bon, en plus, moi, mes savons sont fabriqués dans la pure tradition marseillaise, c'est-à-dire que c'est une cuisson au chaudron avec uniquement les trois ingrédients, l'huile, le sel et la soude, le sel et la soude qui désinfectent, cicatrisent et assèchent, et l'huile végétale ou d'olive qui nourrit la peau, donc c'est vraiment les réparateurs de la peau et c'est un très bon désinfectant.
Très bon désinfectant, pourtant c'est un petit peu moins pratique que le gel hydroalcoolique, non ?
C'est-à-dire que le gel hydroalcoolique, ah oui, ça c'est sûr qu'on peut pas se le trimballer avec soi.
On peut pas le boire non plus.
sinon vous risquez de faire des bulles.
Vous buvez du gel hydroalcoolique, Philippe.
Mais par contre, c'est vrai que...
Je suis entouré de personnes étranges.
Par contre, pour une utilisation quotidienne à la maison, bien sûr que c'est quand même mieux, quoi. Voilà. Ouais. Et puis, je vais même mieux vous dire, étant donné qu'il y a de l'huile d'olive ou de végétal, ça peut aussi réparer des mains abîmées du gel hydroalcoolique qui est quand même fait à base d'alcool. Donc, il est vrai que ça peut assécher les mains. J'ai même des clientes qui sont venues avec des crevasses au creux des doigts, quoi. Donc, voilà.
Et donc chez vous, le savon de Marseille, il vient bien de Marseille, hein. C'est quelque chose de rare maintenant.
Tout à fait. Ah, bah, écoutez, là, il reste sur Marseille, il reste 4 maîtres savonniers, ce qu'on appelle les maîtres savonniers, c'est-à-dire la cuisson au chaudron avec uniquement l'huile, le sel et la soude, ces 3 ingrédients, rien d'autre. Moi, je travaille donc avec la savonnerie Le Sérail qui a été créée en 1949. Donc ça fait plus de 70 ans que nous travaillons toujours avec le même procédé. Voilà.
Et alors une dernière question, Stéphane Ruiz. Qu'est-ce qui est de mieux entre le savon de Marseille, le savon d'Alep, le savon industriel, ou même quelles sont les différences finalement entre tous ces savons?
Le savon d'Alep, c'est une fabrication totalement différente puisque c'est fait à base d'huile d'olive et de crème de laurier.
D'accord.
Donc c'est un savon aussi qui est très 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 nourrissant, mais bon, à l'heure actuelle, au vu de ce qui se passe à Alep, c'est très très difficile aussi d'en retrouver en Syrie. Donc je pense que les maîtres savonniers de Syrie sont plutôt partis sur la Turquie ou sur le Liban pour fabriquer, toujours avec la cuisson au chaudron, bien sûr. Voilà.
Très bien.
Ça, c'est très important.
Merci beaucoup Stéphane Ruiz. Juste une dernière question, les savons, ça coûte combien à peu près? 4-5 euros, c'est ça, non?
Alors, vous avez une pierre de savon, un cube traditionnel de 300 grammes à 4 euros, et le kilo peut aller jusqu'à 11,30 euros. Et avec un kilo, je peux vous garantir que vous en faites, vous en avez pour la nuit des temps.
Ah bah, et vous livrez sur toute la France.
écoutez, oui, on livre. Nous avons 3 boutiques qui distribuent les produits de la savonnerie Le Sérail. Donc, il y a 2 boutiques, une à La Ciotat qui s'appelle Le Chaudron à Savon, l'autre boutique à Nice qui s'appelle aussi Le Chaudron à Savon, et la mienne à Metz dans l'Hérault qui s'appelle Massilia. Et on peut commander sur le site Massilia Botti, qui pour l'instant est en fonction, mais il passera sur le site Chaudron à Savon.
Et bien on commandera, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Stéphane Ruiz, gérant de la boutique de savon Massilia à Metz. Et bravo pour cette belle initiative du Made in France. Et là, on va teaser quelqu'un qu'on adore, Yvan Cujous, le Loft Music. Bonsoir Yvan.
Bonsoir mon Philippe. Bonsoir
hier
tout le monde.
Soir, le Loft, c'était un régal avec Princesse Erika, Roman Serda et Guillaume Batz.
Ouais.
Et ce soir, c'est du très lourd.
Ouais, c'est du très lourd parce qu'on reçoit Thomas Dutronc en direct. Et que ça ne vous a pas échappé, nous célébrons les 30 ans de la disparition de Serge Gainsbourg, précisément ce 2 mars.
Absolument.
Et donc on va évoquer le grand Serge avec Yves Bigot, patron de TV5 Monde, qui sera là avec nous également. On va parler d'un bouquin écrit par Marie-David, Gainsbourg Intime Adresse, chez Plon, qui a abordé Gainsbourg par le fait qu'il habitait dans cette maison qui est devenue mythique, et qui va d'ailleurs être ouverte en tant que musée, je pense, par Charlotte Gainsbourg. Elle a évoqué le désir rue de Verneuil. On va donc avoir cet axe cela. Et puis on parlera également avec Rislaine Selika de la partie Gainsbourg influencée par le reggae, par les musiques du monde, par tout ça. Donc on va être dans une vision de Gainsbourg, comme est son œuvre d'ailleurs, très large, très influencée par la musique classique, le reggae, le swing, le jazz au début, etc.
Le classique aussi.
Et la musique classique.
Thomas Dutronc va chanter du Gainsbourg ou pas?
Non, pas forcément. Bien qu'il en chante, il chante ses petits riens sur la version de luxe de son nouvel album Frenchie. Donc en duo avec Alonzien Birkin, ses petits riens, écrit par Gainsbourg. Et on va de toute façon en chanter un peu, parce que vous savez, dans le Loft Music, tous les soirs, on chante en vrai.
Oui.
En vrai.
Et je vais poser une question très indiscrète. Non. Est-ce que Yvan Cujous va chanter du Serge Gainsbourg ce soir?
Ouais, je vais l'évoquer, bien sûr. Je vais m'amuser parce que je fais des petits quiz dans le loft, donc je vais commencer le point sonneur des Lilas et arrêter pour que mes invités donnent la suite de la chanson. Je vais faire des quiz à la trompette, j'évoque une mélodie, il faut retrouver de quelle chanson il s'agit. Quand il n'y a pas les harmonies, c'est toujours plus compliqué.
Ah oui. Enfin,
et on va surtout écouter un peu de Gainsbourg. Par exemple, ceci, point sonneur des Lilas, 1958.
Et dans ce bouquin, il y a écrit que des gars la coulent douce à Miami.
Alors hier soir, c'était grand luxe en termes de menu dans le loft, comme d'habitude, Princesse Erika, Roman Serdaghi, Ombats, et ce soir, Rebelote.
Ouais, Rebelote.
Avec Thomas Dutronc.
Thomas Dutronc. Le point sonore est là, juste, on écoute cette chanson à l'instant, parce que Gainsbourg, et c'est ça qui est intéressant, dans la richesse de sa carrière, de son parcours, est passé du jazz, qui était le premier vaisseau, véhicule de son œuvre, avec le point sonore d'Elia en 1958, jusqu'à ben, des choses beaucoup plus pop, beaucoup plus reggae, beaucoup plus swing, et beaucoup plus décalé, même beaucoup plus trash et provoque, à la fin de sa carrière. Et la richesse, elle est notamment dans cette diversité d'influences.
Et c'est à 20h, comme tous les soirs, sur Sud Radio avec Yvan Cujous.
À tout à l'heure.
Et à 19h, on va parler des voies de l'emploi. C'est pas le même genre. On sera bien évidemment avec Christine Biet et Yves de Risbourg. Restez bien avec nous sur Sud Radio.